Chapitre 20. Mary, en quittant l'atelier de Miss Simmons, inspira joyeusement l'air du soir et se hâta d'arriver chez la veuve où l'attendait Alice. La fraîcheur du vent, la rapidité de la marche dissipaient peu à peu sa tristesse et faisaient évanouir la vision effrayante qui l'avait obsédée pendant le jour. Un sentiment de bien-être inexprimable succédait à cette terreur. Elle était libre et se reprochait la joie qu'elle éprouvait en songeant qu'elle n'avait plus rien à craindre de celui qui, la veille encore, la poursuivait de ses menaces. Elle pouvait donc prendre telle rue, passer devant telle boutique où d'ordinaire il s'arrêtait pour l'attendre sans que l'inquiétude vînt la saisir. Pauvre cœur que l'émotion faisait battre. Cette joie profonde, qui changeait en brise, caressante l'âpre vent de la nuit, n'était-ce pas la pensée de revoir Jem qui la faisait naître, la pensée que d'un regard, il saurait tout comprendre. Mary posa la main sur le loquet et ouvrit la porte sans avoir frappé. Jem n'était pas dans la chambre. Sans doute, il rentrerait bientôt. Sa mère, accroupie devant la cheminée, probablement fort occupée du plat qu'elle faisait cuire, n'avait pas entendu qu'on entrait et ne s'était point retournée. Mary quitta son chapeau et son châle et s'approchant de la veuve. « Laissez-moi faire, lui dit-elle. Je suis sûre que vous êtes fatiguée. Reposez-vous, et je vais faire cuire cette viande. » Mistress Wilson releva la tête, et ses yeux étincelèrent. « Ah, c'est toi ! » s'écria-t-elle. « Et tu oses mettre le pied dans cette maison, après tout ce qui arrive. Ce n'est donc pas assez de m'avoir pris mon Jem avec tes artifices. Il faut encore que tu viennes insulter sa pauvre mère. Sais-tu bien où il est, méchante drôlesse, avec tes yeux bleus et tes cheveux jaunes? Sors d'ici, démon à la face d'ange, sépulcre blanchi. Sais-tu où il est par ta faute? Réponds un peu, l'oseras-tu? »
Je ne vois pas, murmura la pauvre enfant, terrifiée par cette violente apostrophe qu'elle ne pouvait comprendre.
Il est à New Bailey, articula distinctement la veuve en examinant l'effet que produisaient ses paroles. À New Bailey, en attendant qu'on le juge, pour avoir tué Mr. Carson. »
Elle n'obtint pas de réponse, et continua sans pitié.
« Tu le connaissais, ce gentleman. Trop bien, ce que l'on dit. Et ce serait pour l'amour de toi que Jem l'aurait tué. Ah, mais non, je sais bien qu'il ne l'a pas fait. Ils peuvent le prendre, mais sa mère jurera de son innocence jusqu'à son dernier souffle. »
Elle s'arrêta. La force lui manquait, mais non pas les paroles.
« Je ne vous comprends pas, » dit Mary d'une voix tellement altérée qu'on l'eût prise pour celle d'une autre. « Qu'est-ce que Jem a fait? Répétez-le-moi, car je ne l'ai pas compris. »
« Je n'ai pas dit qu'il l'avait fait. Je dis au contraire que je jure que ce n'est pas lui. Je me moque pas mal de tous ceux qui ont entendu la querelle et de savoir si c'est à lui le fusil qu'on a trouvé. Ce n'est pas Jem qui jamais tuera quelqu'un, n'importe pour quelle coquine. Mon pauvre Jem, qui a été envoyé comme une bénédiction dans la demeure où il est né. »
Des larmes remplirent les yeux brûlants de la pauvre mère, dont la voix s'adoucit pour parler de son enfant et de l'époque où, tout petit, elle le veillait dans son berceau. Mais rappelée bientôt à la situation présente et vexée d'avoir eu la faiblesse de s'attendrir devant l'infâme Dalila qui avait perdu son fils, elle reprit avec aigreur.
« Je lui avais bien dit de ne plus penser à toi. Misérable, qui n'était pas même digne d'essuyer la poussière de ses pieds. Mauvaise drôlesse. C'est bien heureux que ta mère soit morte et qu'elle ne puisse pas voir ce que sa fille est devenue. »
« Oh, ma mère, ma mère !» s'écria Mary dans sa détresse. Puis elle ajouta d'une voix touchante. « Je le sais bien que je ne suis pas digne de lui. »
Et dans son cœur, elle sentait vibrer ces paroles que Jem lui avait dites la dernière fois qu'il lui avait parlé.
« Mary, vous entendrez peut-être dire que je suis un ivrogne ou un voleur, peut-être un assassin. Mais rappelez-vous, quand ils parleront de moi dans leur colère, que vous n'avez pas le droit de me blâmer, car c'est votre cruauté qui m'aura fait ce que je serais devenu alors. »
Et Mary ne le blâmait pas, bien qu'elle crût à son crime. Elle comprenait que, jalouse de Jem, elle eût agi follement. Et que n'avait-elle pas fait?
Oh mon Dieu! Continue, pauvre mère indignée, parle, accable-la d'injures. Elle t'approuve et les accepte.
mais les derniers mots qu'elle avait proférés d'une voix si pénétrante et si humble avaient touché la veuve qui, en dépit d'elle-même, se sentit désarmée.
« Tu vois, Mary, où la mauvaise conduite nous mène, » reprit-elle avec douceur. « C'est par ta faute que l'innocent est soupçonné. Tu répondrais de sa mort si elle était condamnée, de la mienne aussi qui retomberait sur ta tête. »
« Oh, mon cœur se brise !» murmura-t-elle avec angoisse à l'idée que Jem pouvait être pendu.
« Folie !» répliqua Jeanne. « Mon cœur a plus de droit que le tien à se briser aujourd'hui. Et pourtant, je suis debout, et je garde mon courage. Mais qu'est-ce que je dis, mon Dieu, si je te perdais, mon Jem, s'il te pendait malgré ton innocence? Oh, mon enfant, tu sais bien que j'en mourrais. »
Et ses sanglots éclatèrent.
« Laissez-moi rester avec vous, jusqu'à ce que nous sachions comment ça finira. Mistress Wilson, vous permettez, n'est-ce pas? Je vous en conjure, »
disait Mary, et la pauvre enfant répétait d'une voix suppliante.
« Laissez-moi vous soigner. Ne me renvoyez pas. Je vous servirai. Je veillerai sur vous. Oh, ne me renvoyez pas. »
Mais la veuve se montrait inflexible. « J'ai été dure pour toi, Mary. Je le regrette. » Et pourtant, je désire que tu t'en ailles. Je ne peux pas oublier que c'est toi qui, par ta légèreté, nous as mis dans la peine. Je resterai auprès d'Alice avec Mistress Davenport, qui va venir tout à l'heure, mais non pas avec toi. Bonsoir. Peut-être que demain, je te verrai d'un autre œil. Quant à présent, bonsoir. »
Et Mary quitta cette maison d'où elle était chassée. Cette maison qui aurait pu être la sienne, et se retrouva dans la rue où des voix enrouées annonçaient auprès d'elle « Le récit du meurtre sanglant d'un gentleman avec l'enquête du coroner et le portrait frappant du prévenu James Wilson pour un sou. »
Elle fuyait, comme en rêve, et prit d'instinct le chemin le plus court afin de rentrer plus tôt chez elle, seul endroit où elle put cacher son désespoir, mais où nul accueil, nul amour ne l'attendait, où pas un mot, pas une larme ne répondrait à ses pleurs. Comme elle approchait de sa maison, elle fut arrêtée par un enfant, un petit garçon italien, qui portait au cou une de ces boîtes renfermant quelques curiosités, une souris blanche ou une marmotte. Il était pâle, de grosses larmes brillaient dans ses yeux noirs. Il regarda Mary, et de sa voix harmonieuse, il proféra ces mots.
« Fin, si fin !»
Et craignant de ne pas être compris, il montra du doigt sa petite bouche dont les lèvres tremblaient.
« Oh, ce n'est rien, enfant, que d'avoir faim, »
lui répondit Mary en poursuivant sa course. Mais se reprochant aussitôt sa dureté, elle entra chez elle, prit ce qui restait dans le buffet et revint sur ses pas à la recherche du pauvre petit, qui s'était assis près d'une borne à côté de sa boîte et qui pleurait en répétant à demi-voix.
« Mamma mia! Mamma mia !»
Mais, avec cette faculté qu'ont les enfants, de passer tout à coup du chagrin à la joie, il se leva en souriant dès qu'il aperçut la jeune fille, lui baisa la main avec la gracieuse politesse de son pays et la remercia de tout son cœur, tandis qu'il partageait son repas avec sa souris blanche. Mary, distraite un instant de sa douleur par la vue de cette joie si naïve, se pencha vers l'enfant après l'avoir regardé quelque temps, l'embrassa sur le front et courut s'enfermer dans sa chambre où, les cheveux épars et la face contre terre, elle donna libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. Et personne auprès d'elle, personne au monde, pas une parole, pas d'autre voix que celle du remords qui déchirait son cœur. Pourquoi avait-elle cédé au démon? Pourquoi s'était-elle laissée entraîner par cette ambition fatale qui lui avait fait écouter son riche adorateur? Elle méritait ses tortures, mais lui, son bien-aimé, victime innocente de la faute qu'elle avait faite. Elle ne se demandait pas comment il avait pu savoir ses relations avec Mr. Clarkson. Tout le monde avait dû les connaître. Mais à présent qu'il avait tout appris, que devait-il penser d'elle? C'était fini, plus d'espoir qu'il pût l'aimer encore. Et d'ailleurs, ce n'était pas de son amour qu'elle s'inquiétait maintenant. Ses larmes éclatèrent de nouveau, et lorsqu'elles furent épuisées, la pensée lui revint. La pensée du crime de Jem, dont elle avait fait un assassin. Et la potence se dressa devant elle, et se détacha au milieu des flammes qui brûlaient ses yeux fermés. La potence! Oh,
mais elle devenait folle. Chose étrange, un calme singulier remplaçait l'horrible angoisse qu'elle venait d'éprouver. Le passé revenait à sa mémoire. Elle se retrouvait à l'heureux temps où sa mère, la regardant avec amour, la prenait sur ses genoux pour essuyer ses larmes et la consolait d'un mot, quel que fût son chagrin. À l'heureux temps où elle ignorait que sa mère pouvait mourir, où, comme l'enfant qu'elle venait de rassasier, elle comptait la faim pour une souffrance. Où Jem était son ami, le compagnon de tous ses jeux, qu'il partageait avec la bonté d'un frère aîné. Où son père était gai, content, riche de l'amour de sa femme, de l'amitié de ses camarades. Et le sommeil, venant peu à peu s'emparer de tout son être, fit succéder le rêve au souvenir. Sa mère était près d'elle et s'inclinait pour l'embrasser. Elle était toute petite et retrouvait ses plaisirs, ses amis d'autrefois, jusqu'au chat, son favori, qui jouait alors avec elle et que depuis bien longtemps elle avait oublié. Elle se redressa tout à coup et rejeta ses longs cheveux en arrière. Quelque chose venait de la réveiller. Tout était calme pourtant, et les battements de son cœur troublaient seuls le silence. Il était plus de minuit. La lune versait dans sa chambre sa froide lumière, éclairant de ses pâles rayons la nudité des murs. Un léger coup, frappé à la porte, se fit entendre. Mary frissonna. Peut-être les morts revenaient-ils, évoqués par son rêve. Mais qu'avait-elle à craindre si l'ombre de ceux qui l'avaient aimée revenait la consoler au milieu de ses douleurs? Et ne redoutant plus rien, elle suspendit son haleine pour saisir le moindre bruit. « Mary, Mary, ouvre-moi » dit quelqu'un du dehors. C'était la voix de sa mère, l'accent du sud qu'elle se rappelait toujours et qu'elle imitait quelquefois, par amour pour celle dont elle gardait le souvenir. Elle courut à la porte et l'ouvrit. Plus de doute, une femme était là, pâle sous la clarté de la lune, et dont les traits chéris lui étaient bien connus. « Oh, ma mère, vous voilà donc » s'écria-t-elle en se jetant dans les bras de sa pauvre tante, qu'elle ne reconnaissait plus.